revenu. זה פסק שהוא תורה הציבור. C'est une expression très importante dans l'enseignement talmudique. Toute décision vraie, mais qui est Torah la tzibur, une charge pour le public, on annule. Par exemple, il y a actuellement des rabbins de synagogue qui méprisent ce principe-là. Ils nous font des prières kilométriques, des fois ça dure des heures et des heures et des heures, et puis ils ajoutent des sermons où ils engueulent les gens qui ne sont pas là, hein, qui durent des heures. Ce qui fait qu'on rentre à la prière à 7h du matin et on sort à 1h de l'après-midi. Vous avez remarqué ça? J'exagère, mais pas tellement. Okay? Ça s'appelle Torah Tzibur. On charge le public. Alors ça, dans les tribunaux rabbiniques, notamment du Talmud, c'était une règle minutieusement applicable. C'est une takana, un psakdin, que le Tzibur ne peut pas supporter, il faut l'annuler. Alors, donc vous voyez, il y a plusieurs autorités en question, et des critères d'autorité différents. C'est pourquoi, très rapidement, pour terminer avec la paracha de Shoftim, dans cette paracha, vous avez quatre pouvoirs qui sont institués. Le pouvoir des juges, le pouvoir des rois, le pouvoir des prêtres, et le pouvoir des prophètes. Vous verrez, la paracha est très longue, on nous parle des privilèges de ces quatre catégories de pouvoirs. Et le principe de la Torah, c'est une séparation absolue des quatre pouvoirs. S'il y a cumul de deux pouvoirs que la Torah avait interdit, c'est le cas de ce qu'on appelle les théocraties, par exemple, c'est interdit par la Torah. Et je vais vous donner un exemple historique d'une catastrophe qui est arrivée dans l'histoire d'Israël, parce qu'on a violé cette interdiction du cumul des pouvoirs. Alors, je vais essayer de vous faire une analyse très, très schématique, mais je la voudrais la plus claire possible. Le roi, c'est le pouvoir civil. Le juge, c'est le pouvoir juridique. Le prêtre, c'est le pouvoir sacerdotal, le pouvoir religieux, et le prophète, c'est le pouvoir prophétique. Le prophète est au-dessus de tous. Et puis, je veux dire dans l'ordre, un roi peut être juge, mais il ne peut pas être prêtre. Un prêtre peut être juge, mais il ne peut pas être roi. Et voilà donc, vous voyez, la personnalité du juge est très importante dans cette hiérarchie des pouvoirs. Au point d'ailleurs que, après l'entrée dans le pays de Canaan, au temps de Josué, après la sortie d'Égypte, le pouvoir était confié aux juges, d'abord. Et c'est quand le pouvoir des juges a échoué qu'on a institué la royauté. Vous vous rappelez dans l'ordre historique. Et ça me rappelle de me rappeler, vous avez oublié de me le rappeler, je vais vous parler de Ruth. Très bien, j'y arrive tout à l'heure. Mais au temps des Asmonéens, dans la révolte contre les Grecs, c'est un parti une famille de Lévi qui ont fait la révolte, les Maccabées. Hein, les Asmonéens, et puis ils ont institué une royauté provisoire de pouvoir civil contre les Romains, et ils ont institué donc la royauté des Asmonéens. Mais ils devaient rendre le pouvoir à la dynastie royale immédiatement après la victoire contre les Grecs. Ils ont gardé le pouvoir. Alors c'était la catastrophe qui a mené les Romains dans le pays et a détruit le deuxième royaume de Juda. Ils ont installé une théocratie. C'est-à-dire les prêtres ont pris le pouvoir politique. Et ça, c'est absolument interdit par la Torah. Les rois n'ont pas le droit d'être les prêtres, et les prêtres n'ont pas le droit d'être les rois. Je pense que c'est clair. Pouvoir juridique, pouvoir... Or, les Asmonéens ont fait cette faute énorme. Et donc, ils ont été les responsables de la destruction du deuxième royaume de Juda. Ils ont donné le pouvoir sacerdotal aux Sadducéens, qui ont couvert cette... révolte contre la Torah. Est-ce que c'est bien clair, hein? Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut jamais demander des consignes politiques à des rabbins, et il ne faut jamais demander des consignes religieuses à des hommes politiques. Chacun son... je vais vous donner l'exemple. Si nous avons des problèmes avec la montagne du Temple, c'est parce qu'en 67, des rabbins ont pris des décisions politiques. Hein? Et alors maintenant, on est en train de payer la note. Le gouvernement israélien discute de savoir si ça appartient aux Palestiniens ou aux Jordaniens, et les juges n'ont aucun droit là-dessus. Alors que le seul peuple qui a un droit sur la montagne du Temple, c'est les Hébreux. Les autres sont des conquérants. Et rien ne vient. Parce que, par crainte de prendre une décision, les grands rabbins de la rabbinie de Rachid, au moment de la guerre des six jours, ont interdit au gouvernement qu'on reste sur la montagne du Temple. Pourquoi? Parce que leur argument, c'était de dire... On ne mérite pas, on n'est pas assez pur. Les arguments de rabbin. mais avec des implications politiques. Maintenant, on paye la note. Comme s'il fallait être pur pour être juif. Un juif doit être pur. Il doit être purement juif. Alors, je reviens aussi. Bon, c'est un autre chapitre. Mais j'étais mêlé de très près à ce moment-là. Je veux dire, le grand responsable de ce qui se passe actuellement, c'est Yosef Bourg, qui était le chef du Mafdal à l'époque. Et ce qui se passe dans tous les problèmes concernant la politique israélienne. Et il a eu une vengeance de la justice immanente. Son fils lui fait payer la note. C'est son fils qui il y a une espèce d'édipe énorme entre Abraham Bourg et Yosef Bourg. Ça se passe chez les bourgeois. Bourg à nous. Bourg à nous, je suis bourgeois. Bon, je referme la parenthèse, c'est de la politique israélienne très grave. Et alors, voilà, le fait de cumuler le pouvoir sacerdotal et le pouvoir politique, c'est la théocratie. C'est interdit par la Torah. Et les Asmonéens sont rendus coupables de ça, c'est la destruction du deuxième royaume de Juda. Alors quand vous avez des rabbins, députés, ministres, ou vous avez des chefs du ministère, comment on dit, du ministère des cultes, qui sont des politiciens, c'est la fin de la législation de la Torah en Israël. Or, c'est le cas actuellement. Je pense que c'est clair, ce que je dis là. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, ce rabbin que je ne veux pas nommer, sinon rachetez votre, Dalet, Resh, Aïn, Yud, Da'at, Rabbi, Ovadia, Yosef, c'est Deraï, eh bien, un rabbin ministre. C'est la fin du monde. Et un ministre, Sarah Dalatot, c'est la fin du monde. Et un ministre rabbin. Okay. Et méfiez-vous de ça. Je sais très bien que, avec le Mafdal, le parti nationaliste religieux, vous êtes habitué à l'idée que on demande conseil aux rabbins pour la politique et aux hommes politiques pour la religion. C'est une illusion. Et même les fondateurs du Mafdal n'ont jamais voulu ça. Ça s'est transformé par la politique politicienne. Et alors, ce qui me permet de dire, et ce n'est pas une blague, que ce parti a Mafdil Ben Kodesh Lechol. C'est le Mafdal. Alors, je reviens au sujet. J'espère qu'on finira par se sortir de tout ce bar, cette espèce de magouille qui ressemble à ce qui s'est passé au temps du deuxième temps, au temps du deuxième royaume de Juda. On raccroche. Il y a 2000 ans, c'était comme ça, pour en sortir. Mais vraiment, on raccroche à ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, j'en arrive au verset de Ruth. Attendez, je vais voir quelle est l'heure, parce que je voulais vous parler encore d'autre chose. Oui, on a le temps. Bon. Eh bien, le premier verset de Ruth, c'est « Vaihi bimei shvot ashoftim ». Et il arriva au temps où les juges jugeaient. C'est une indication historique, une information historique. L'épisode de Ruth se passe au temps du pouvoir des juges. Je ne veux pas dire au temps du jugement des juges. Okay. Il arriva quand les juges jugeaient en Israël. Et alors, le Talmud dit, ça a été repris dans les évangiles par la suite, le Talmud dit, au temps où les juges étaient jugés. En hébreu, disent en hébreu, Vahi bimeshfot ashoftim, au temps où on jugeait les juges. Et comment on les jugeait? Quand le juge disait, enlève la paille que tu as dans l'œil, alors on lui répondait, enlève la poutre que tu as dans le tien. Oui, d'où ça vient, ma paille, ma poutre, ma palme, tout ça, c'est la même famille. Et alors, ça veut dire, lorsque les juges jugent mal, ils sont jugés. Alors, la suite, va y rabaret. Il y a une famine dans le pays qui aboutit à l'exil. Et vous lirez l'introduction au livre de Ruth. Vous voyez, si les juges se font juger parce qu'ils jugent, alors on Et qu'est-ce qu'on demande à un juge? De juger. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire en hébreu. Le juge doit... Voilà, c'est ce que dit Rashi. Le juge doit juger Dayanim Apuskim et Adin, comme dit le verset, Mishpat Tzelek. Mais si le juge juge au niveau de la légalité, c'est la catastrophe dans la société. Et j'ai compris ça dans l'histoire de France lorsque j'ai lu toute cette série de romans de société qui décrivait la société française à la veille de la guerre de 14. J'ai oublié les détails, ça j'étais jeune. C'est Jean-Christophe ? Non, Jean... Jean-Christophe, oui, Romain Rolland, mais il y a une autre série. Jean Romain, Et il y avait deux séries, ou trois séries même. Non, c'est avant la guerre de 14. Roger Martin Duguard, c'est avant la guerre de 14. Non, c'est avant la guerre de 39. En tout cas, cette série des romans de société, bon, Émile Zola, c'était avant déjà. Quand on voit une description de la société où la morale est en question dans la justice, alors les catastrophes des guerres mondiales sont inévitables. On sent que c'est une société qui va à la catastrophe. J'étais frappé par cela. Jean-Christophe, je crois, il y a un nom comme ça.
C'est Romain Rolland.
C'est Romain Rolland. Il y a une description de la société française de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qui est, bon, bien sûr, a posteriori, la guerre de 14 était déjà arrivée, mais on sent, même a posteriori, c'est clair. Une société pareille, ça ne peut pas ne pas culbuter dans une catastrophe. Et effectivement, c'est ce qui arrive à la veille des guerres mondiales. Et c'est assez inquiétant de voir ce qui se passe dans les sociétés européennes aujourd'hui, où le droit est bafoué. Et il y a le risque en Israël d'être contaminé par cette espèce de mentalité où la légalité prime la justice. Vous avez remarqué à quel point nous avons toute une partie du monde politique qui n'a que ça à la bouche. Medina Trok, la légalité. Alors ce qu'il faut, c'est Medina Tzedek, la justice. C'est très différent. Et avec cette propagande insidieuse qui donne à la légalité le sens de la justice. Vous avez compris la gravité du problème. Donc la Torah prévoit cela et nous met en garde. Voilà en tout cas pour la paracha de Shofti. Je voudrais, il me reste à peu près 25 minutes. Et oui, je vais d'abord dire une bracha. Je voudrais que vous preniez le début de la paracha qui est à vous. Je vais dire quel est le chapitre. Et après, et avant cela, je vous donnerai une petite introduction. Oui, c'est l'heure de la famille, ça. Le vin a changé. Hein? Oui, Kavav, c'est-à-dire le chapitre 26. Tiens, chapitre 26. Bon. Chapitre 26 au premier verset. On va lire rapidement ces choses. Je voudrais vous indiquer un thème, un moment de réfléchir. On reprendra cette étude pendant le séminaire qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors, dans tous les cas, il y a deux termes, deux catégories qui sont très importantes. Petite introduction, vous savez que nous avons entre autres deux commencements de l'année, le mois de Tishri, qui est le septième mois, lorsque le commencement de l'année c'est Nissan, qui serait le premier mois. Donc ça commémore deux événements radicalement différents, mais qui sont les clés de la liturgie traditionnelle juive. Le mois du Tishri, le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, jour de l'an, comme on dit en français. Et l'événement fondamental, c'est le rapport à au souvenir de la création du monde. Et la liturgie fondamentale du mois du Tishri, c'est la liturgie du repentir. C'est clair, pour la Tshuva, c'est Tishri. Nissan, le mois de Pâques, le souvenir, c'est la sortie d'Égypte, et la liturgie de Pessah, de ce mois de Nissan, c'est la délivrance, la Geoula. C'est clair? En hébreu, Geoula, délivrance, ça veut dire la fin de l'exil, Galut, Geoula. Et en hébreu, Teshuvah, ça veut dire le repentir, ça veut dire le retour. Bon, alors je voudrais expliquer très brièvement le parallèle qu'il y a entre ces deux notions, la notion de Teshuvah et la notion de Geoula. La notion de repentir et la notion de délivrance. Et après, nous lirons ici. Premièrement, en ce qui concerne la notion de Teshuvah, il y a une grande discussion chez les décisionnaires. Est-ce que le fait d'avoir à se repentir s'il y a une faute, c'est un commandement de la Torah ou pas? C'est un problème sérieux. Nous savons qu'il y a 613 commandements de la Torah. Certains décisionnaires comptent parmi les 613 la tshuva, le repentir comme un commandement, comme une obligation, ça veut dire que s'il y a eu faute, on a obligation, d'après la loi, d'avoir à se repentir. D'autres décisionnaires, dont Maïmonide, ne comptent pas du tout le repentir comme une des mitzvot de la Torah, comme une des obligations de la Torah. Alors, très rapidement sur ce point, on le reprendra en détail par la suite dans le séminaire, Maïmonide considère que tout comportement qui est une tendance naturelle de l'homme, la Torah ne légifère pas. Alors pour Maïmonide, c'est ce que je vous ai expliqué rapidement, vous me direz c'est clair, le fait de se repentir si on a fait une faute est un comportement naturel de l'homme. Par conséquent, il n'y a pas de place pour la liberté si c'est une tendance naturelle, neti ativeit, et donc la Torah ne légifère pas lorsqu'il s'agit d'un comportement qui s'inscrit dans la nature humaine. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Bon. Par conséquent, ce qu'il faut expliquer, c'est comment Maïmonide comprend que le repentir, c'est un comportement naturel. Alors, je donnerai d'abord l'explication, après je reviens sur la thèse opposée. Que non, il y a un commandement, il faut qu'il y ait un commandement, que si on a fait faute, il faut se repentir. Ça, c'est Nachmanide. Bon. Alors, je reviens sur la thèse de Maïmonide. Tout le monde suit? C'est clair? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un grand principe. D'après les versets de la Bible, les fautes ne sont que les fautes des justes. Ce sont les justes qui fautent. Et par conséquent, si un juste a fauté, on peut compter sur lui que sa conscience ne le laissera pas tranquille jusqu'à ce qu'il se repente. Et alors pour Maïmonide, quand il se repentira, alors il faut avouer la faute. Pour Maïmonide, l'obligation, c'est le vidouille, l'aveu de la faute. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est l'aveu de la faute qui est le signe que le repentir est authentique. Quelqu'un qui est en faute, qui n'a encore pas le courage ou la capacité d'avouer ce qu'il a fait, n'est pas guéri de sa faute. Les psychologues connaissent ça. Quand quelqu'un parle de son problème, c'est qu'il est sur le chemin de la guérison. Et il faut avouer à voix haute et devant témoin. J'en profite, petite parenthèse, que je dis chaque année. Il y a une coutume chez les juifs pieux de se téléphoner la veille de Rosh Hashanah et de dire « Si je t'ai fait du tort, pardonne-moi. » Ça veut dire « Si je t'ai fait du tort, pardonne-moi. » Chaque fois que je reçois un coup de téléphone comme ça, je raccroche. C'est-à-dire « Tu m'as fait du tort, dis qu'est-ce que tu as fait, avoue-le. » Et d'après la loi et d'après la Torah, il faut deux témoins. On avoue sa faute devant deux témoins. Si on n'a pas ce courage-là, c'est qu'on ne s'est pas repenti. Tant qu'on n'a pas le courage de reconnaître ça. Vous voyez pourquoi le repentir est difficile? Parce que l'aveu est difficile. C'est très difficile d'avouer une faute. Surtout devant deux témoins. Je vous dirais même plus, comment est la loi? Et si c'est une faute qu'on a faite devant quelqu'un qui est déjà décédé, alors on va devant sa tombe et devant 10 témoins, il faut avouer la faute. Devant un minyan. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est sérieux. Alors pour Maïmonide, je suis Matisse, le repentir en lui-même est une conduite naturelle, mais l'obligation de la loi, c'est l'aveu. On peut prendre de temps pour vous donner d'autres exemples où la Torah ne légifère pas. Elle ne légifère pas sur la conduite, elle légifère sur la forme de la conduite. Vous voyez, ça c'est la thèse de Maïmonide que j'ai citée en premier, parce qu'elle est très homogène avec l'esprit de la Torah. Ça veut dire que la Torah considère que c'est un juste qui faute, on peut compter sur lui. Ça, je n'ai pas encore expliqué. Ça veut dire pourquoi on peut compter sur lui. Parce que n'est faute que celui qui a déjà été sensible à la transcendance d'une loi. C'est ça le tzaddik. Celui qui est sensible à l'obligation de la loi. Il veut être et agir en justesse par rapport à la loi. Alors si une conscience est sensible à l'évidence de la loi, alors on peut être sûr que sa conscience ne le laissera pas tranquille tant qu'il a une faute dans son remords. Ça s'appelle en hébreu Moussar Klayot. Ses reins ne le laisseront pas dormir jusqu'à ce qu'il se repente. Et alors, on peut se demander comme question, est-ce que vraiment tout celui qui a fauté est dans ce cas de ne pas être de ne pas avoir la conscience tranquille tant qu'il ne se repent pas. Alors c'est pourquoi le Talmud a légiféré là-dessus. Il y a deux cas. Il y a Tshuva Me'ahava, il y a Tshuva Me'ira. Celui qui spontanément, de façon sui generis par lui-même, se repent, c'est très bien. On appelle ça le repentir par amour. Mais l'immense majorité des cas, c'est on n'arrive pas. On a beau être sadique, on n'arrive pas à avoir ce courage d'avouer la faute. Alors viennent les épreuves qui obligent le tzaddik finalement, acculé par les épreuves de la vie, pour s'en sortir, il finira par avouer. Parce qu'il sait très bien que c'est ça qui le taraude. C'est Tshuva Me'ira. À force de Issourin, à force d'épreuves, le jeu de la vie l'oblige finalement à aller avouer sa faute. Vous voyez pourquoi il y a deux catégories de conduite du du repenti. Alors que Nachmanide, lui, c'est clair pour Maïmonide. Hein, c'est un principe qu'il a expliqué dans le Sefer HaMitzvot. La Torah ne légifère pas lorsqu'il y a conduite naturelle. Alors il faut découvrir que la doctrine de Maïmonide est très aristocratique. Maïmonide parle au top de la nature humaine. Parce que son postulat, c'est que la Torah ne s'adresse pas à n'importe qui. La Torah s'adresse aux tzadikim, aux justes qui veulent vivre comme justes. Elle ne s'occupe pas des autres, la Torah. C'est le Talmud, la Torah chez Baal Peh, qui tient compte de ceux qui sont de mauvaise volonté. C'est pourquoi le Talmud est en araméen, alors que la Torah est en hébreu. Je vous dis ça de façon symbolique, sans approfondir. La Torah est en hébreu, qui est le Lashon HaKodesh, la langue sainte, alors que le Talmud est en araméen, qui est la langue populaire. Ça veut dire, c'est comparé à l'arbre de vie qu'il y avait dans le jardin, ça c'est l'hébreu, et l'arbre du bien et mal, c'est l'araméen. En hébreu, il n'y a aucun mot qui désigne les choses mauvaises. Il y a toujours des périphrases. Okay. Tandis qu'en araméen, on peut dire le bien et le mal. C'est l'araméen est la langue du Talmud. Parce que pour distinguer entre le bien et le mal, il faut parler araméen. On ne sait pas parler du mal en hébreu. D'ailleurs, il y a le mot qui dit le mal en hébreu est un mot pur. Alors le mot qui dit le mal en araméen est un mot impur. C'est bicha. Mazal bish, bish, bisha, c'est l'araméen boucha de l'hébreu. Après, je vais vous faire une petite gamatrie là-dessus. Quand on dit bisha en araméen, c'est mauvais. Hein. Tandis que rare en hébreu, le yetzera rare, c'est l'appétit de vivre. C'est tout à fait autre chose, c'est pur. Ça. Rare amène réa, roé. Je ne traduis pas, mais ça nous mérite trop. Le mot de rare en hébreu, c'est un mot tov. Alors le mot de bisha en araméen, c'est épouvantable. Et alors, regardez, comment on appelle les abréviations du code en hébreu? C'est le tour. Vous connaissez ça? Tour, c'est Tov Vara. C'est les abréviations du tour. Tour, ça veut dire les colonnes du jugement. Mais comment ça se lit? Tour, tête, va, fraîche. Tov Vara. Bon, c'est clair pour ceux pour qui c'est clair. Pour les autres, je risque d'obscurcir trop. Alors, ça va être bien. Et alors, effectivement, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? J'ai envolé sur l'hébreu et l'araméen. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Vous suivez ou c'est moi qui suis?
Le Maïmonide se situe à un niveau très
élevé. Oui, la Torah ne parle que pour les tzadikim. Alors, je vous donne un exemple. Je reçu d'un de mes maîtres quand on étudiait la peine de la bastonnade. Vous savez que les peines prévues par la Torah, c'est ou bien il y a mauvaise volonté irréversible, c'est la peine de mort, et un tribunal qui condamne à mort une fois pour les 70 ans est appelé un tribunal de criminel, vous vous rappelez de ça. Ou bien c'est une faute dont il faut punir, non pas le contenu de la faute, mais le fait d'avoir fait une faute. Et c'est la même peine pour toutes les fautes, c'est la bastonnade. Et on devait adapter le nombre de coups de bâton à la capacité médicale, si vous voulez, du patient, du prévenu, parce que il faut le guérir de sa mauvaise volonté, mais c'est ton frère. Et alors, il y avait des experts qui pouvaient dire, tu as une petite nature, 3 coups de bâton. Tu as un costaud, 7 coups de bâton, etc. Et alors, il avait comparé ça, ça m'avait fait bien comprendre l'objectif de la bastonnade, à l'électrochoc. Quand quelqu'un a un trouble psychique, il lui faut un choc pour se réveiller. Alors ça veut dire, au fond, son âme voudrait agir en bien. Seulement, il est malade. Alors, il faut le guérir de sa mauvaise volonté. Bon, j'ai parlé rapidement, mais j'espère que c'est suffisamment clair. Je vais encore expliquer un point du problème. La peine n'est pas adaptée au contenu de l'acte. Parce que le contenu de l'acte, qui est le contenu de l'acte de la faute, dépend du fonctionnement du monde. C'est pas l'homme qui a inventé ça, qui a voulu ça. L'homme s'est mis dans le cas d'entrer dans un engrenage de cause à effet qui fait que ça l'oblige à agir comme ça. Mais agir comme ça, c'est celui qui a créé le monde, qui a disposé les mécanismes du monde comme ça. Donc, on n'est pas puni du contenu de la faute. On est puni du fait d'avoir fait une faute. Or, un juste ne veut pas faire de faute. S'il a fait une faute, c'est qu'il est malade. Il lui faut un électrochoc. Après l'électrochoc, il est guéri et il est de nouveau ton frère, comme ça dit le verset. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, il y a des électrochocs par l'électricité, il y en a par l'insuline, il y a aussi des électrochocs en douceur, par l'analyse, c'est ce que je sais, moi. Il y a des quantité de stratégies médicales, mais finalement, c'est mal compte. Les patients, ils doivent aller se faire soigner par un psychiatre, ont mal d'y aller. De la même manière que celui qui doit aller à la pastorale a mal d'y aller. Okay. Donc, ça veut dire que la sanction ici n'est pas une punition essentiellement, mais une thérapeutique. Pourquoi je vous ai parlé de ça? D'où on est sorti?
Au contenu de la forme, mais d'abord.
Mais pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est ma question. Ah oui, le Rambam parle pour l'homme de bonne volonté. L'Armani dit, oui, c'est vrai, en principe, en théorie, la Torah parle pour l'homme de bonne volonté. Mais nous, les rabbins, on connaît nos juifs. Alors il faut parler au niveau où ils sont. Si ce n'est pas écrit qu'il faut faire ça, ils ne feront pas. Alors écrit qu'il faut qu'ils se repentent s'ils ont fait. Vous avez compris là? La stratégie de l'Armani, c'est une stratégie pédagogique. C'est éducatif. Okay. Effectivement, je crois qu'en son temps, Nachmanin avait raison, mais pour notre temps, il est optimiste. C'est pas parce que c'est écrit qu'on va le faire. Je ne sais pas si c'est clair. Je vous donne... C'est clair celui-là. Alors finalement, c'est Maïmonide qui a raison. Il me reste 5 minutes avant qu'on lise le texte. Ce que je voulais indiquer, c'est le lien entre la Tchoua et la Géoula, et puis je n'ai pas le temps. Alors, rappelez-moi pour le séminaire que je parle de ça. Mais déjà, je parle de la Tchoua. La différence entre Maïmonide et Nachmanide, c'est que les deux sont d'accord qu'il faut avouer la faute, mais pour Nachmanide seulement, la Teshuvah c'est aussi un commandement, même pas pour Maïmonide. Mais dans tous les cas, le repentir est considéré comme authentique que s'il y a aveu, d'où obligation de l'aveu. En tout cas pour la Géoula aussi, je vais dire ça très rapidement, il y a le même problème. Après ça, on commémore la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte, c'est la fin de l'exil qui nous rattache à la foi d'Israël. La foi d'Israël, la Emouna, c'est qu'on peut sortir d'exil. Vous reprendrez toute l'histoire des patriarches, tout ce que Dieu révèle aux patriarches, c'est qu'on peut sortir d'exil. Ça explique pourquoi, dans l'universel humain, on était frappé par l'événement de Pâques au point que la chrétienté l'a pris comme liturgie centrale. On sait de l'histoire du peuple juif que la délivrance est possible. La délivrance de quoi? De la situation d'exil. Alors, je dirais quelques phrases là-dessus, Dieu est suffisamment clair, parce que toute créature, quelle qu'elle soit, a un mal-être de la prise de conscience de l'être de créature qui consiste à être en exil du Créateur. Alors, chaque tradition, chaque culture l'exprime à sa manière. Mais il y a une exigence à être sauvé, comme disent les chrétiens, le salut, dans toutes les traditions humaines, quelles qu'elles soient. Je prends le vocabulaire chrétien parce qu'on est le plus familier, ça exprime ce malaise, ce mal-être, si j'ose dire, de se connaître comme créature, c'est-à-dire en exil du Créateur. C'est clair? Et encore une fois, j'ai étudié énormément de traditions, surtout dans le bouddhisme, qui n'est pas une religion vraiment, mais là aussi, il y a... Alors chaque tradition définit de quoi il faut être sauvé. Pour Israël, c'est direct, c'est sauvé de la condition de créature, qui est une condition d'exil. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a une liturgie de l'aveu dans la commémoration de la sortie d'Égypte, c'est le vidouille. On avoue qu'est-ce qu'on a fait en sortant d'exil. C'est parallèle à l'aveu dans la Tchouva. Nous allons lire le texte de cet aveu. C'est comme la délivrance de l'exil s'est achevée au Sinaï à la révélation de la loi. Il y a une délivrance physique à la sortie d'Égypte, une délivrance spirituelle quand on a eu la révélation de la Torah. Et alors voilà, le jour de commémoration de la révélation de la Torah, c'est le jour de la fête des prémices. Je vais vous lire comment la Torah prévoit la liturgie du jour de la fête des prémices. Ça, c'est notre chapitre 26. Je traduis directement. « Ve'aya qui t'avoua la mette, tu es bien. Et il arrivera, quand tu viendras dans le pays, la Aliya, « Asher Hashem l'onkecha noten lecha » que Dieu te donne, « Nachal en héritage » Virashta, virashtaba, tu en hériteras et tu t'y installeras. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis une centaine d'années, de notre exil, de la civilisation occidentale. Mais ce texte concerne la fin de l'exil, la civilisation égyptienne. Velakarta, mereshit koperi adama, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, ashertavi merzera, que tu amèneras de ton pays, asherachem lokiranotenecha, que Dieu te donne. Vesamta Vatene, tu les placeras dans un panier, Valartel Amakom, tu iras à l'endroit, Asher Ipra, Asher Melokecha, que Dieu choisira, et chacun chez Mosham pour lui faire résider son nom. Cet endroit est en compétition entre le roi Hussein de Jordanie et le président de Gaza. Vous savez cela. Ou Batel Akohen, et tu arriveras, tu viendras chez le prêtre, Asher Yehiye Bayamim Ahem, qui sera en ce temps. Ben Martel avait, tu lui diras, voilà l'aveu qui commence. Igati ayom l'Hashem Elokecha. Je viens dire, je viens raconter aujourd'hui à Hashem ton Dieu, c'est chaque Hébreu qui s'adresse au Kohen, qui bâtit la reste que je suis venu au pays, Hashem Nishba Hashem Laotenu, que Dieu a juré à nos pères. La tête là nous, de nous donner. Vela kaha Kohen Atene, et le Kohen prendra le panier, miadecha de ta main, veini cholishne misbach Hashem Elokecha. Il le placera devant l'autel de Hachem, ton Dieu. Mais avant que les prémices sont apportées, Dieu n'est Dieu que du prêtre. Une fois que les prémices sont apportées, que l'aveu de ce que j'ai cité, sur lequel je vais revenir en quoi c'est un aveu, a été fait, alors Dieu est le Dieu de celui qui a apporté les prémices. Quel aveu ? Qu'est-ce que c'est que ce rite ? Qu'est-ce que c'est que ce culte de l'homme qui, à Jérusalem, apporte les prémices en reconnaissance au Dieu d'Israël qui a donné la terre. Ça veut dire, en tant que quoi, nous sommes venus dans le pays pour pratiquer la Torah. C'est ça, c'est un vidouille, c'est un aveu. Ça veut dire, n'importe quand dans le temps, quelle que soit l'époque à laquelle on était né, en arrivant le jour de Shavuot, le jour de Pentecôte, pour la fête des prémices, on disait, je viens dire à ton Dieu que j'arrive dans le pays que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, l'Aralia, je l'ai fait le jour de Shavuot. Quel que soit l'époque où mon grand-père était arrivé en Eretz Israël. Alors voilà comment je voudrais expliquer ça très rapidement. J'ai souvent réfléchi à ça. La motivation qui a fait que les Juifs sont arrivés dans ce pays au bout de 2000 ans. Alors chaque fois que vous interrogez un Juif dans le pays d'Israël, vous allez faire une enquête dans la rue. Pourquoi tu es ici ? Alors chacun va vous raconter un roman, le roman de sa vie. Mais il ne va pas vous donner la vraie raison. Il ne va pas avouer pourquoi il est venu ici. Je vous donne 3 ou 4 exemples en passant. Il y en a qui vont venir vous dire, je suis venu ici pour pouvoir être religieux. Et on ne peut pas être religieux ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 2000 ans? Et qu'est-ce que font tous les religieux qui sont ailleurs? Donc ce n'est pas la vraie raison. Il y en a d'autres qui vont vous dire, je suis venu ici pour être socialiste. Parce qu'effectivement, il n'y a qu'ici qu'on peut être socialiste vraiment. On ne peut pas être socialiste ailleurs. Vous voyez, tout ça, c'est des alibis qui cachent quoi? On n'ose pas avouer ce qu'on a fait vraiment. Est-ce que c'est clair, celui-là? Ou bien, ça, je me suis amusé à cela quand je vais souvent en France, il y a une ville juive extrêmement typique, c'est Sarcelles. Okay, c'est vraiment une ville juive extraordinaire. Et alors, il y a aussi une cinquantaine d'autres communautés de non-français. Enfin, les seuls non-français qui se parlent pour les Français, c'est les Juifs de Sarcelles. Okay. Et alors, on leur demande, pourquoi vous êtes à Sarcelles et pas ailleurs? Pas ailleurs, c'est-à-dire pas à Jérusalem. Chacun vous raconte sa vie. Il vous raconte un roman de sa vie. La vérité, c'est pas du tout ça. La vérité, c'est qu'il est à Sarcelles parce qu'il n'est pas ailleurs. La vérité, c'est que quelqu'un est à Ashdod parce qu'il n'est pas à Sarcelles. La vérité, c'est ce qu'on lit dans ce texte. Mais personne n'ose avouer pourquoi il est là ou pourquoi il n'est pas là. Alors, qu'est-ce que c'est cet aveu? Et tu lui diras, je viens dire aujourd'hui à Hachem, ton Dieu, que je suis venu au pays que Hachem, notre Dieu, a juré à nos pères. Voilà pourquoi je suis là. Et toutes ces histoires de motivation officielle, je suis venu pour être religieux, je suis venu pour être socialiste, je suis venu à cause de l'antisémitisme, tout ça c'est des bêtises. Okay, c'est pas vrai. La vraie raison, c'est celui qui est venu parce qu'il est venu, et celui qui n'est pas venu, n'est pas venu parce qu'il n'est pas venu. C'est clair ce que je dis là. Lorsque j'ai étudié l'acte volontaire en psychologie, alors je ne me souviens plus des auteurs des théories, mais il y avait une théorie extraordinaire, je crois que c'est le behaviorisme, et qui disait, on croit qu'on a décidé, et alors on a fait. C'est parce qu'on fait ce qu'on a fait qu'on prend conscience que c'est ça qu'on a décidé. Je ne sais pas si c'est clair. C'est au moment, je crois que c'était un auteur anglo-saxon. Je crois que c'est au moment où on agit, on prend conscience de ce qu'on fait, et alors on dit, voilà ce que je veux faire. Vous voyez, et on s'invente un roman explicatif. Alors qu'en réalité, derrière tout ça, c'est très intéressant, le roman de la vie de chacun. Derrière tout ça, il y a ceci. ou bien la vérité, c'est qu'il faut que j'avoue pourquoi je suis venu. Je suis venu pour accomplir enfin la promesse de Dieu à mes pères. Et puis toute autre motivation, c'est des alibis fumeux. Et tous ceux qui sont encore là-bas, je veux dire à l'étranger, c'est qu'ils ne veulent pas réaliser la promesse que Dieu a faite à leur père. Et tout ce qu'ils nous racontent, c'est des alibis. En réalité, c'est les allocations familiales, c'est les diplômes, c'est le compte en banque, c'est tout ce que vous voudrez, mais toute leur histoire idéologique, ça repose sur rien. Je pense que c'est clair ce que je vous disais rapidement, parce qu'on a beaucoup de temps. C'est un sujet extrêmement important. Ça veut dire, tant pour la tchouva, le repentir, que pour la géoula, la délivrance, l'essentiel, c'est l'aveu. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est clair ce que j'ai essayé d'expliquer. Allez, à vous, c'est vrai. Bon, eh bien, si vous avez, on a encore 2 minutes, si vous avez une question là-dessus, je veux bien, sinon, je vous souhaite de bonnes vacances, et on se retrouvera, comme chaque année, pour les slichot la veille de Pessah, la veille de Pessah, la veille de Rosh Hashanah, en tout cas pour le séminaire Rosh Hashanah, et on commencera l'année, si Dieu veut, dans une maison pas seulement repeinte, mais nous avons énormément d'autres programmes qui vont être installés à Yaïr, indépendamment du programme habituel. Il y a un programme de formation supérieure de rabbins sfaradim pour les communautés d'Israël, qui sera géré par Yaïr, et probablement une partie du programme du Machon Ora, qui est obligé d'être situé à Emouna, mais une partie des cours seront ici. Donc, tiens la parole.
C'est que quand le camion frappe la poitrine et on énumère des masses de crimes qu'on n'a pas commis, à mon avis, c'est une conduite qui est juste tout à fait opposée à la vie.
Non, et oui, je te réponds, c'est très simple. C'est le vidouille, c'est le vidouille de la communauté, comme dit Akipou. Le vidouille dont j'ai parlé pour la Shoah, je parlais du vidouille personnel, les fautes personnelles. Ça, c'est la communauté qui a un aveu en tant que communauté. Voilà ce que nous, ensemble, nous avons fait. Et alors, je me rappelle, d'ailleurs, j'ai étudié ça avec un de mes maîtres, la question que tu as posée. Alors, il a répondu que quelqu'un lui avait posé la question. Il lui a répondu, et d'abord, qu'est-ce que tu en sais si tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce que tu en sais? Vous savez, d'abord, chaque faute, c'est à différents niveaux. Quand on dit Hatati Raviti, mea culpa, on dit en français, dit j'ai tué. Comment tu as tué? Oui, tu as tué. Tu as une fois regardé quelqu'un d'une manière telle que finalement il en est mort. Bon. Et est-ce qu'on sait ce qu'on fait en faisant? Est-ce qu'on sait à chaque niveau? Et puis surtout, est-ce que tu sais dans laquelle de tes vies tu as fait ça? Et puis c'est bien à ça. Okay. Mais dans tous les cas, la réponse est que c'est la communauté ensemble qui dit ça. Et je prends toujours cet exemple. Voilà, dans les 10 commandements, il y a « tu ne tueras pas ». À qui on s'adresse? Un peuple d'assassins, hein? Il n'y a pas « tu ne commettras pas de meurtre ». Non, attendez, je parle mal en français. Il n'y a pas « tu n'assassineras pas ». Il y a « tu ne tueras pas ». Non, je veux dire. Il n'y a pas « tu ne tueras pas », il y a « tu n'assassineras pas ». Oui. À qui on s'adresse, un peuple d'assassins? Alors le commentaire dit, même à Philobédibo, même par une parole tu peux tuer. Et alors je parlais des œillades assassines. Il y a des œillades assassines. Okay. Il faut savoir ça. On raconte un des élèves du Hari, le Morcho, c'est Rabbi Chaim Vital. Son maître était le fondateur de la Kabbale de Safed. Et son maître lui avait dit qu'il fallait qu'il soit très scrupuleux dans toute application de tout commandement. Parce qu'il était à sa dernière réincarnation et qu'un geste pouvait le perdre et qu'il fallait qu'il soit scrupuleux. C'est d'ailleurs un enseignement en général. On est jugé à chacune des vies que l'on vit. Le problème de la réincarnation, c'est pas ce soir que j'en parlerai. Okay? Mais admettons la vie que nous sommes en train de vivre chacun, laissez la réincarnation de côté, on va être jugé sur un comportement. Chacun a une chose à réussir, mais on ne le sait pas d'avance. C'est pourquoi il faut être scrupuleux pour toute la loi. Vous avez dû remarquer que pour chacun, il y a des commandements faciles à accomplir et des commandements difficiles. Et ce n'est pas les mêmes pour chacun. Et alors ça veut dire qu'on est mis à l'épreuve dans certaines conduites qui particulièrement est difficile pour chacun. Et alors en général, c'est un geste et on ne sait pas lequel. Alors un jour, on raconte dans les livres du Malchou, il étudiait un Shabbat, il était gêné par un moustique, et finalement, il a frappé pour ne plus agir par le moustique. Il a tué le moustique. Son ex s'est révélé à lui et dit, voilà, tu as échoué. Tu as accompli la faute de Caïn qui a tué son frère. Tu sais pas que c'est ton frère, mais tu l'as tué. Vous voyez jusqu'où doit aller le scrupule. Eh bien, ce Melchior, qui était un très grand d'Israël, chaque Kippour disait, j'ai tué, il ne savait pas que c'était vrai. Bon, je referme la parenthèse. C'est cette vigilance du scrupule, c'est vraiment le problème du juste. Je vais vous dire à quoi je pense, parce que j'ai beaucoup pratiqué ça en tant qu'éducateur, je reçois beaucoup de confessions, entre guillemets. C'est que, de quoi je voulais parler, ça m'échappe, vous rendez compte. Jamais parler de quoi il ne faut pas parler. Qu'est-ce que je disais avant? Ah oui, je comprends. C'est qu'effectivement, on ne sait pas sur quoi on va être éprouvé. Alors, il faut être vigilant sur tous les détails du comportement. C'est ça, un tzaddik. Celui qui est vigilant sur tout. Quelqu'un qui est, qu'on appelle Meshuvah Ladavar d'une certaine mitzvah. Quelqu'un qui est, porté à telle ou telle vertu, telle ou telle obligation. Eh bien, il a cette mitzvah qu'il réalise bien. Et puis les autres, il faut pas trop chercher à comprendre. C'est une chose commune dans les communautés juives. On dit à celui-là, il est meshuvah ladavar. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'occupe du comité de bienveillance. Le reste, il fait ça kacha. Mais le comité de bienveillance, il est scrupuleux possible. Et ne croyez pas que c'est pour la Légion d'honneur. C'est vraiment parce qu'il est charitable et il tient à ce que la charité soit donnée bien. Moi, j'avais un ami, que Dieu son âme, on l'appelait l'amiral de la flotte. Pourquoi? Parce que sa mitzvah, c'est... cette fois-ci que pour ça. Il y a mes choix d'un tzaddik et scrupuleux comme ça dans toutes les maisons. Et alors il y a un danger, il y a un danger très grave. Ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si ça existe, la scrupulite. Et quand ça tourne à l'obsession. D'ailleurs, je ne sais pas si ça devient une névrose ou une psychose, ou quelque chose de cet ordre, une névrose. Par exemple, vous savez qu'il faut se laver les mains avant de manger, avant de prier, etc. Mais vous avez des gens qui se lavent les mains toutes les secondes. Je sais pas comment ça s'appelle, le médicament. La phobie. J'ai eu comme ça une élève il y a très très longtemps. Et un jour, j'ai connu sa mère et je me suis aperçu que sa mère avait le même défaut. Et après, j'ai connu la grand-mère, il y avait le même défaut. Donc, je ne sais pas comment ça passe. Oui. Et alors, elles en étaient très malheureuses, elles étaient conscientes de ce qui se passait. Bon, alors voilà, les tzadikim sont guettés par le danger de névrose obsessionnelle. Je crois que tout rituel risque d'induire des obsessions. Il faut se méfier de cela. Comme je dis souvent, on va s'arrêter là, parce que je risque de dire du mal des justes. Ça, c'est un beau sujet de roman, le mal des justes. Quand vous avez un homme pieux qui est maniaque, il faut toujours se demander s'il est pieux parce qu'il est maniaque, ou s'il est maniaque parce qu'il est pieux. Dans les deux cas, c'est grave. Bien. Alors, bonnes vacances et à bientôt.